OK. Donc, j'ai mis une photo de Jean ce matin qui est, il s'est levé comme ça, là, Jean. Comment arriver à pardonner? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais je trouve ça difficile. Je trouve ça difficile de pardonner. Qui trouve ça facile ici de pardonner? Personne, wow! Je m'attendais au moins à une main, deux mains, là, mais personne ne trouve ça. Ben, ça m'encourage, ça va être pertinent lorsqu'on va voir ce matin. Comment arriver à pardonner? On est dans la série sur la résolution des conflits quotidiens. Puis voici ma phrase sommaire. Donc, comme j'ai dit souvent, si vous partez juste avec cette phrase-là, vous allez avoir l'essentiel du message ce matin. Pour pouvoir pardonner comme j'ai été pardonné, il faut que je relâche la dette que la personne a envers moi en la clouant à la croix de Christ. Pour pouvoir pardonner comme j'ai été pardonné, on va voir ce matin la notion de dette, c'est très important, très, très important, et comment, qu'est-ce qu'on fait avec cette dette-là. OK? Je peux changer? Il y en a-tu qui voulaient l'écrire? Il y en a qui l'écrivent encore? OK. On a, en résumé, dans le cours, 5 points. Le premier point, c'est rechercher la gloire de Dieu dans le conflit. Comment on fait pour rechercher la gloire dans le conflit? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? À l'intérieur d'un conflit, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui ne glorifie pas le Seigneur? Oui? Quelles attitudes ne glorifient pas le Seigneur? Auto-justification? Fuir? Dans un conflit, qu'est-ce qui ne glorifie pas le Seigneur? Pardon? Rébellion? OK. Quoi d'autre? L'orgueil, endurcissement. Quelles autres attitudes ne glorifient pas le Seigneur lorsque vous êtes dans un conflit? Déni, OK. La colère, l'irritation, la colère. OK, la soif de vengeance. Non, ça, on n'a jamais ça, là, hein? On n'a jamais ça. OK, bien, c'est ça, fait que on sait qu'est-ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait glorifier le Seigneur? L'amour, rechercher le bien de l'autre, la compassion, le désir de préserver la relation, peut-être. Par mon attitude de glorifier le Seigneur, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, par l'amour que vous avez les uns pour les autres. On a tout vu ça. Ça, c'est le premier R. Le deuxième R, c'était quoi? Un enseignement qui nous vient directement de la bouche du Seigneur Jésus. Pourquoi regardes-tu à la paille dans l'œil de ton frère alors qu'il y a une poutre dans ton œil? Et qu'est-ce qu'il dit? Jésus, il nous recommande de faire quoi? Enlever la paille de l'autre. C'est ce qu'on est expert à faire. On est expert à faire ça. Mais Jésus, il va contre-courant, n'est-ce pas? Notre tendance naturelle à nous tous, lorsqu'il y a un conflit, garde ce que tu m'as fait faire, garde ce que tu as fait, garde ce que tu m'as fait vivre, regarde ce que tu as dit, regarde ce que tu as fait, et puis moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand tu as une poutre dans l'œil, là, est-ce que tu vois grand-chose? Vois pas grand... pas vraiment, hein? Pas vraiment. Donc, Jésus est en train de nous dire, on est des aveugles à cause de notre orgueil. On refuse de voir notre part dans le conflit. Et ça, c'est vraiment un point très important dans la série sur la résolution des conflits. Avant de me ramasser à côté de Milka dans le lit de l'hôpital, là, je vais tasser le fil. Pauvre Milka. Donc, retirer la poudre de notre œil, ça veut dire que je prends le temps de m'humilier. Et honnêtement, devant le Seigneur, m'interroger, m'examiner pour voir si j'ai une part de responsabilité dans le conflit. Et le dicton qu'on a, c'est même si j'ai 2% de responsabilité dans le conflit, je suis à 100% responsable de ce 2%-là. Notre tendance naturelle, c'est de dire que vu que toi, là, tu as 98% de la responsabilité, moi, mon 2%, là, je balaye ça. J'enlève ça de la table, là, puis c'est disparu. La faute, c'est à toi. Mais Jésus nous confronte là-dessus. Puis souvent, on ne le voit pas. Il faut aller à Jésus dire, « Seigneur Jésus, qu'est-ce que j'ai? J'ai-tu une part de responsabilité? » C'est très, 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 très rare qu'on n'a pas au moins une part de responsabilité, au moins 1% de responsabilité dans un conflit. Fait que ce processus-là, d'abord avec le Seigneur, qui se fait dans l'intimité avec le Seigneur Jésus, on confesse, ayant reçu son pardon, je peux procéder à une confession réelle et adéquate envers l'autre personne sans chercher à minimiser, comme on a vu la dernière fois, il y a 2 semaines, on a plein de stratégies, minimiser, rationaliser, dissimuler, rejeter le blâme sur l'autre ou jouer pour le match nul. Hein? Oui, j'ai péché, mais toi aussi. Les matchs nuls. On arrête ça là. Ça ne règle rien. Donc, ça, c'est les deux R extrêmement importants. Maintenant, aujourd'hui, on va voir un troisième R qui est relâcher la dette. C'est un point tellement capital que, habituellement, d'un cours, c'est plus loin, mais j'ai cru bon de vous l'apporter à ce point-ci dans le cours, parce que je crois que c'est vraiment essentiel à la réconciliation, de pouvoir relâcher la dette que la personne a envers moi. Sans le pardon sincère, la réconciliation est inatteignable. Donc, ça, c'est les deux autres points qu'on va voir plus tard, redresser avec douceur et rechercher la réconciliation. Voici ce que Paul dit dans Éphésiens 4, 30 à 32. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Prions. Seigneur grand Dieu, c'est avec humilité qu'on s'approche de toi ce matin, roi de l'univers, souverain créateur du ciel et de la terre. Car à toi revienne la révérence, à toi revienne l'adoration, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Car tu as tout créé et tu as voulu tout donner à tes créatures, mais nous nous sommes détournés de toi, nous nous sommes révoltés contre toi. Et tu as conçu ce plan de réconciliation merveilleux en Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus, on veut entendre ta voix seule qui nous parle ce matin. Viens nous parler par ton esprit et ta parole, Seigneur. Éclaire-nous, nous sommes aveugles. Nous avons besoin de ta lumière, Seigneur, pour te voir et nous voir, afin que ta vie coule en nous, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Viens, Saint-Esprit, prends le contrôle de ce temps que nous avons ensemble et fais ton œuvre. Pour la gloire de Jésus. Amen. On a ici, là, vraiment, hein, comment ne pas glorifier Jésus dans un conflit et comment glorifier Jésus-Christ dans un conflit. Hein? Il dit, pardonnez-vous réciproquement, il dit bien réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ensuite, de la bouche directement du Seigneur Jésus, on a dans le Notre Père, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Et ça, c'est un enseignement vraiment primordial de la bouche du Seigneur Jésus. Il dit, quand vous priez, voici ce que vous devriez dire. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons les torts aux autres qui nous ont fait. Donc, le Seigneur nous instruit la nécessité de pardonner. C'est une nécessité. Et elle est basée sur, entre autres, le fait que nous avons été pardonnés. Mais, avant d'aller plus loin, on va regarder un petit peu à quelques points pour nous aider à comprendre comment arriver à pardonner. Premièrement, les conflits naissent souvent de fautes. Hein? De fautes. De fautes, soit qu'on ne nous a pas respectés, soit qu'on n'a pas répondu à nos attentes, soit qu'on nous a volé quelque chose de physique ou de moral, soit qu'on a refusé de nous donner ce qui nous revenait de droit, soit qu'on nous a blessés par des insultes ou des injures, soit qu'on a porté atteinte à notre réputation ou qu'on s'est moqué de nous, soit qu'on nous a menti, il y aurait pour des pages et des pages de possibilités. De fautes que les êtres humains peuvent causer à leurs semblables. En plus des fautes, imaginez. On est capable d'imaginer des fautes. Ce sont des interprétations que je fais de ce que l'autre dit ou fait, alors que la personne n'a pas voulu faire ou dire quelque chose pour nous blesser, mais la faute est imaginée au bout de beaucoup exagérée de ma part. Et ça vient des blessures antérieures. J'arrive à mal interpréter ce que les gens font, ce que les gens disent, comme une offense, alors qu'il n'y en a pas d'offense. Mais moi, je conçois comme une offense, OK? Fait que l'offense est là dans mon cœur. Pareil. D'accord? Alors, dans un conflit, il faut tout d'abord, comme on a vu, s'examiner, voir si nous, de notre côté, on a des torts, incluant des torts d'interprétation, mais, et ensuite avouer et demander pardon. Mais le Seigneur Jésus ne dit pas d'ignorer la paille dans l'œil de l'autre. Hein? Il ne dit pas « laisse faire la paille dans l'autre, enlève ta poutre ». Non, il ne dit pas ça. Il dit « enlève d'abord ta poutre ». Et après, tu verras clair pour enlever la paille dans l'œil de l'autre. Hein? Fait qu'il néglige pas, là. Il néglige pas l'autre partie. Il faut, ici, être capable de s'arrêter et d'identifier la faute qui nous a été commise ou qu'on conçoit qui nous a été commise. Ça marche? Prendre conscience de la faute, l'identifier. Et souvent, là, on est tous pareils, là. Il y a quelque chose qui se passe, puis ça nous irrite. On est mal, on n'est pas dans notre assiette, mais on n'est même pas capable de dire c'est quoi. On n'est même pas capable, on sait juste que l'autre, là, il m'a rendu mal, de mauvaise humeur. Fait que c'est de sa faute. Mais on ne sait pas pourquoi. C'est juste le fait de dire, OK, c'est quoi qui m'a irrité? C'est quoi qui me rend de mauvaise humeur? OK, ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, je ne me suis pas senti respecté. Bon, là c'est bien. Là, on commence à identifier quelque chose qu'on va pouvoir traiter. Mais bien souvent, frères et sœurs, on s'en va là, puis on est juste marabout, puis on brasse, on, tu sais, on, comment on dit ça, là? Je ne veux pas prendre l'expression « brasser la... » mais vous savez ce que je veux dire? Sans même savoir, sans avoir pris la peine d'identifier, c'est quoi que j'ai vécu que j'aime pas? On sait juste que l'autre est méchant et que la relation est brisée ou très hypothéquée. Faire face à la situation de ton cœur est pénible. C'est pénible, c'est douloureux et ça peut être épeurant. Mais c'est absolument nécessaire pour ton bien et le bien de la relation. Comme on a vu pour nos propres offenses, souvent, on recourt à des stratégies pour éviter de vraiment faire face à la faute de l'autre ou de ensuite être capable de le traiter. On dit souvent « Ah, c'est pas grave, oublions ça. Hein? » Après que la colère soit redescendue, « C'est pas grave, oublions ça. » Est-ce que c'est vraiment réglé? Non, il n'y a rien de réglé, là. chercher à minimiser, à excuser, rationaliser, comme on a vu avec nos propres fautes, ça ne règle rien. Notre cœur reste froid ou amer, la relation est détruite ou reste superficielle au mieux. Souvent, on va entendre des phrases comme celle-ci par rapport à des anciennes blessures d'enfance, par exemple. « Ah, il ne voulait pas me faire du mal. » Oui, mais tu as subi de grosses injustices ou des abus. « Ah, ils ont fait de leur mieux, en parlant de nos parents. » « Ah, mais elle a fait tant de choses pour moi. » Toutes ces choses peuvent être vraies. Ça peut tout être vrai. Mais ce n'est pas de... En disant ces choses-là, que ça enlève la faute. Ça n'enlève pas la faute. Et la blessure traîne. On traîne la blessure avec nous et toutes ces conséquences-là parce qu'on refuse de faire face à la faute. Lorsqu'il y a vraiment une offense, il ne peut y avoir de pardon réel dans mon cœur que si j'identifie l'offense et en mesure l'ampleur, le poids réel pour moi. Ça vaut-tu 10 piastres, comme Robert dit souvent, ou 10 000? Il faut que j'identifie l'offense et l'ampleur de l'offense pour être capable de traiter de cette offense avec l'aide de Dieu. L'ignorer, le refouler, le minimiser, tenter de l'oublier simplement, ne permettra pas à une vraie réconciliation. Ça, c'est la dure réalité, frères et sœurs. On n'aime pas ça, mais c'est vrai. On ne veut pas faire face, mais c'est la seule façon. Donc, les conflits naissent souvent de fautes réelles ou imaginées. Et lorsqu'il y a faute, ben, c'est comme une injustice. Et toute injustice engendre une dette qui réclame un paiement. Toute entrave, toute entorse à la justice implique la contraction d'une dette. Lorsqu'on nous fait du mal, qu'est-ce qu'on a comme réaction habituellement? OK. Mais quelle réaction émotionnelle? On l'a dit tantôt. Colère, oui, la colère. La colère est toujours une réponse à une injustice. Toujours. Et qu'est-ce qu'on dit? Et l'injustice peut être réelle ou perçue ou exagérée. Et qu'est-ce qu'on se dit d'habitude? Qu'est-ce que les gens disent lorsque leurs droits sont atteints? Il va payer pour ça. Il va payer pour ça. Ils vont payer pour ça. Dans les films, on voit ça, le héros là, qui secoue son poing à l'autre en criant « Tu vas le regretter, tu vas payer cher pour ça. Hein? » Pourquoi? Et même lorsque dans notre société, quelqu'un a purgé une peine en prison pour un crime, on dit quoi? Il a payé sa dette envers la société. Voyez-vous? C'est inné dans notre pensée. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une dette. Il y a une dette. C'est la notion d'une dette. C'est que lorsque on me fait une faute, lorsque j'ai vécu une injustice, je n'ai pas eu ce que j'aurais dû voir ou j'ai eu quelque chose que je n'aurais pas dû avoir, bien, c'est une injustice et qu'il y a une notion de dette qui est là dans notre cœur. Et c'est propre à tous les êtres humains. C'est inné, c'est universel. Mais qui a inventé ça? Est-ce que c'est un philosophe grec ou un gourou hindou de l'Antiquité? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a enseigné à nos enfants? Non. Alors, d'où vient cette notion de que l'injustice est une dette qui demande réparation? Cela nous vient du fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu est un être juste. Il nous a créés pour vivre selon la justice, et toute entrave à la justice encourt une dette. Cette notion est très clairement enseignée dans la parole de Dieu, merveilleusement illustrée dans Matthieu 18. On va prendre juste quelques instants pour lire l'histoire. Je sais que la plupart de vous connaissent très bien l'histoire, mais c'est bon de se le rappeler. Matthieu 18, 23. « En effet, dit Jésus, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. une grosse, grosse somme. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosternant devant lui, supplia, « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant, « Paye-moi ce que tu me dois! » Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia. « Sois patient avec moi, lui dit-il. Accorde-moi un délai et je te rembourserai. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons du service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et alors rapportèrent toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Tu es vraiment odieux, lui dit-il. Tout ce que tu me devais, toi, mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. « Voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. » Donc ici, la parabole, Jésus explique à la fin le sens, c'est une parabole qui parle du pardon. Et la notion d'une dette est très clairement exposée. Lorsque ton frère, ta sœur pêche contre toi, elle a une dette envers toi. Et je vais vous dire que ça, là, frères et sœurs, là, c'est la clé. C'est la clé qui va nous permettre de pardonner vraiment. Parce qu'on sait qu'on doit pardonner. Mais comment y arriver? Cette notion de dette, là, c'est très important. Jésus dit que de pardonner, c'est de remettre la dette, c'est de relâcher la dette, OK? C'est une notion très, très, très fondamentale ici qu'on a. Mais, et nos réactions prouvent encore, si je reviens à nos réactions, prouvent cette vérité-là. Pourquoi? Parce que comment on agit quand quelqu'un nous a fait du mal? Bien, on essaie d'y faire payer la dette. On retire notre amour, on la boude la personne, on l'ignore, on l'évite, on parle mal d'elle dans son dos, on tente de lui faire vivre ce qu'elle nous a fait vécu, ce qu'elle nous a fait vivre. Un tas de stratégies pour lui faire payer sa dette. C'est comme ça qu'on agit. Mais ces stratégies qui servent à faire payer la personne ne sont pas bibliques et ne peuvent jamais conduire à un réel pardon, encore moins à un rétablissement de la relation. Au contraire, elles font obstacle au vrai pardon, elles font obstacle à la réconciliation, et contribuent même au conflit, n'est-ce pas? De plus, on garde la rancune dans notre cœur, cette attitude de mépris, parce que même si on essayait de faire payer à l'autre, là, on voit que ça ne suffit pas. On garde rancune dans notre cœur pareil. On garde rancune. Et cette rancune, ce mépris, ce dédain de condamnation envers l'autre, c'est comme un poison qu'on voudrait faire avaler à l'autre, mais qui finit par nous gruger par en dedans. Tant que la dette n'est pas réglée, frères et sœurs, on a besoin d'aide. On a besoin de secours. Comment arriver à pardonner? Parfois, nous sommes vraiment comme prisonniers de notre colère, de notre amertume. Nous savons que nous devons pardonner, mais nous n'y arrivons pas. Et nous avons peut-être le sentiment que si on pardonne, ça va justement libérer l'autre d'une dette qu'il a envers nous et que ce n'est pas juste. Et c'est comme dire que ce que l'autre a fait, ce n'est pas grave, qu'à la limite, il peut recommencer. Ou bien souvent, ce qu'on entend, c'est qu'il ne mérite pas le pardon. Il ne mérite pas que je le pardonne. Bien, si tu attends que l'autre mérite d'être pardonné, là, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Comment on peut arriver à pardonner? On a besoin de secours, on a besoin de trouver une façon de sortir de cette prison. Est-ce que l'Évangile peut nous aider à y arriver? Amen! Oui! Comment? Bien, le Seigneur Jésus, Paul a dit ici, pardon, dans Colossiens 3:13, « Supportez-vous les uns les autres. Si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. » OK, ça on le sait, je le sais, Seigneur, il faut que je le pardonne. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez de la même manière. Oh! Ce petit bout-là, peut-être qu'on ne l'a pas capté encore. Et c'est ça, ce petit bout-là, de la même manière que j'ai été pardonné. Et là, tout de suite, ben, on dit, c'est sûr, on a été pardonné gratuitement, on le sait, tout ça. Là. Ben, attends un peu, là, c'est trop vite, là. Attends, tu vas trop vite. C'est de quelle manière que Dieu a pu me pardonner? C'est ça qu'on va regarder. Comment arriver à pardonner? Le moyen que Dieu a trouvé de te pardonner de tes fautes, lui, là, qu'est-ce que Dieu a fait pour pouvoir te pardonner de tes fautes à toi? Il a pris ta dette, il l'a cloué à la croix de Jésus. C'est la seule façon que Dieu a trouvé de pouvoir te pardonner, mon frère, ma sœur. Il a pris tes péchés, il les a cloués à la croix. Regardez ce qui est écrit ici, c'est merveilleux. Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec Christ, il nous a pardonné toutes nos fautes. Comment? Comment? Il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé en le clouant à la croix. C'est la seule façon que Dieu a trouvée pour te pardonner. Et savez-vous quoi? C'est la seule façon que tu vas arriver à pardonner ton frère et ta sœur. Pardonnez-vous réciproquement comme vous avez été pardonné, de la même manière que vous avez été pardonné. Il nous est dit ici qu'il faut se pardonner réciproquement puisque le Seigneur lui nous a pardonné, mais trop souvent, on s'arrête à l'obligation de pardonner. Il faut que je pardonne, il faut que je pardonne, il faut que je pardonne. Je ne suis pas capable de pardonner, c'est trop grave ce qu'elle m'a fait. Pas capable, j'arrive pas. On s'arrête à l'obligation de pardonner sans avoir le moyen d'y arriver. Peut-être est-ce parce que tu n'as pas saisi de quelle façon Dieu t'a pardonné. Parce qu'il dit ici de pardonner de la même manière qu'on a été pardonné. Dieu n'a pas juste fait, « Ah, oublions ça, là, gars, c'est pas grave, là, passons à d'autres choses. » C'est comme ça que Dieu t'a pardonné? Non. C'est pas comme ça que Dieu t'a pardonné. Le moyen que Dieu a trouvé pour me pardonner, pour te pardonner, c'est qu'il a cloué l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Il a effacé en le clouant à la croix. L'expression « l'acte qui établissait nos manquements » ou dans d'autres versions « l'écrit qui était contre nous » ou dans d'autres versions « l'acte dont les ordonnances nous condamnaient » ou « le document accusateur » dans le Tob est un terme légal. C'est un terme légal qui représentait dans le temps un billet qui portait une reconnaissance de dette. Donc, si tu avais une dette envers quelqu'un, tu avais un billet de dette, c'est ça l'acte qui établissait nos manquements, et qui devait si on compte la personne qui, si elle ne réglait pas sa dette, ça devenait ça, la raison pour laquelle elle serait arrêtée, le mandat d'arrestation. La Bible enseigne que chacun de nous, nous avons manqué à nos obligations morales envers le chef suprême de l'univers qui a tout créé, incluant les lois morales. Que nous le sachions ou non, chacun de nous a un écrit, un document qui comporte des constats d'infraction contre la personne de Dieu et ses lois. Dieu a un document, un écrit, un mandat d'arrestation qui contient tous les chefs d'accusation contre nous depuis qu'on est en mesure de faire la différence entre le bien et le mal. Et toutes les fois que j'ai choisi le mal plutôt que le bien, cela est inscrit sur le document. Mais c'est affreux, tu dis, comment croire à un Dieu comme ça, qui tient les comptes comme ça? Ah oui? OK, attends. Tu veux me dire que toi, lorsqu'on te fait du mal, tu as le droit de te fâcher, de garder rancune, de réclamer justice. Tu tiens bien un registre de tous les torts qu'on t'a fait, mais que Dieu, lui, non. Ah! Dieu, lui, n'aurait pas le droit. En fait, on détermine le degré de culpabilité de quelqu'un en fonction de l'injustice commise, non? Non? L'injustice, elle est établie en fonction des torts commis et envers qui? Par exemple, si tu assailles un voleur qui tente de dévaliser ta maison, tu lui casses le nez, c'est un voie de fait. Mais l'injustice ne sera pas considérée comme grave parce que tu te défendais et la personne qui a commis l'offense envers toi méritait quelque chose. On détermine la culpabilité en fonction de la gravité de l'injustice et l'innocence de la victime, n'est-ce pas? Donc, si j'attaque une petite madame, une petite bonne femme qui traverse la rue, puis j'y arrache son porte-monnaie, puis j'y casse un bras, je vais être beaucoup plus coupable, n'est-ce pas? Alors, comparons. Toi, on t'a fait des torts, mais toi, tu as aussi des torts de ton côté. Tu n'en as pas peut-être dans chaque circonstance, mais en général, tu n'es pas blanc comme neige, n'est-ce pas? Juste de son côté, oui. Alors, toi qui tiens un registre de torts commis contre toi, tu refuses l'idée qu'une personne infiniment plus juste ait le droit de le faire. De plus, cette personne en a le plus droit car c'est elle qui a tout créé et qui a tout donné aux êtres humains. J'essaie de vous montrer que ici nous avons une obligation morale infinie envers Dieu, envers notre Créateur, de vivre selon le principe de justice qui le caractérise. Et puisque nous avons une obligation de vivre dans la justice, toute entrave à celle-ci entraîne forcément une dette. Comprenez? J'avais une obligation de vivre selon la justice. Je n'ai pas vécu selon la justice, donc je suis en dette. En dette envers qui? Envers Dieu. Et cette dette-là, elle est très grande. Nous n'avons pas accompli ce qui était requis. Nous avons manqué. Nous avons failli à faire ce que nous devions faire. Alors nous encourons une dette. Et il est bien dit que Dieu tient des livres. Il est bien dit ici que Dieu a un document qui comporte toutes les fois que tu as manqué, comme un mandat d'arrestation, avec ton nom dessus. La Bible dit bien clairement que chacun de nous, nous sommes coupables devant Dieu. Mais ce Dieu qui est parfaitement juste, qu'est-ce qu'il a voulu faire de ces injustices commises contre lui? Il a pris le document. Ton document. Il l'a cloué à la croix de son Fils. Son Fils Jésus, qui a bien voulu accepter de souffrir, de mourir pour ses crimes qui n'étaient pas les siens, et maintenant il te dit, pardonne de la même manière que je t'ai pardonné. Et donc, pour pouvoir pardonner comme j'ai été pardonné, il faut que je relâche la dette que la personne a envers moi en la clouant sur la croix de Jésus, qui a payé pour ce crime, qui a déjà payé pour ce péché. Pour emprunter le chemin de la réconciliation, frères et sœurs, il faut qu'il y ait pardon des offenses. Voici l'exercice qui va te permettre de pardonner vraiment. Prends un crayon, prends une feuille, écris tout ce que l'autre t'a fait. C'est difficile. Tu vas dire, c'est fou ce que tu me demandes là. Non, c'est pas fou, c'est biblique. Prends un crayon, prends une feuille, écris ce que l'autre t'a fait. Et ce que cela produit comme conséquence physique, morale, émotionnelle, ne tente pas de réduire la facture, d'excuser, de rationaliser ses fautes, fais face à la douleur, demande à Dieu de t'aider à faire ce travail et identifie les péchés, s'il y a eu péché. Cela peut prendre un certain temps, des jours, des semaines, voire des mois, si la note est élevée. On devrait faire cet exercice à chaque fois que quelqu'un nous offense. Peut-être pas à chaque fois prendre le crayon ou la feuille, mais chaque fois, on devrait faire l'exercice, identifier la faute. Et une fois qu'on a identifié la faute, on doit porter en esprit, au pied de la croix, la note, la dette, et la clouer à la croix. C'est la seule façon qu'on peut vraiment, vraiment pardonner. Va porter en esprit, au pied de la croix, la note de dette que l'autre a envers toi. Cloue-la à la croix. Vois par tes yeux spirituels Jésus qui a souffert pour ses fautes. Ressens sa souffrance. Puis prends ta feuille et détruis ta feuille. Marque payé dessus et détruis ta feuille. Car il ne peut y avoir un deuxième paiement pour les péchés. Voyez-vous, tant que la dette n'est pas payée complètement, là, je vais toujours chercher à exiger un deuxième paiement. La seule façon d'en être libre, c'est que la dette soit complètement éradiquée. Elle soit complètement éradiquée. Je peux relâcher la dette parce qu'elle a été complètement payée par Jésus-Christ à la croix. Pardonner comme, de la même manière. Et tu ne pourras pas exiger un deuxième paiement dans ton cœur parce que sinon tu es en train de dire que le sang de Christ n'est pas suffisant pour payer pour les péchés de l'autre. Même dans notre société humaine, lorsqu'il y a paiement pour un crime, on ne peut accuser ou condamner une autre personne. Le crime a été expié, la note a été payée. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de faire cet exercice? Bien, il y a plusieurs raisons. Mais si toi-même, tu n'as jamais été au pied de la croix pour tes propres fautes, il te sera impossible de faire cet exercice. Si tu n'as jamais pris au sérieux tes propres péchés, que Dieu t'a pardonné complètement en clouant ton mandat d'arrestation à la croix de son Fils, tu ne seras pas en mesure de faire cela pour la personne qui t'a blessé. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui croit que Jésus est mort pour nos péchés. C'est quelqu'un qui a pris connaissance de ses propres péchés et fautes et qui a été jusqu'au pied de la croix de Jésus pour recevoir de Dieu le pardon qu'il lui fallait absolument, lui, afin d'être réconcilié avec Dieu. Amen. L'Évangile est une histoire de réconciliation entre toi et Dieu. As-tu été réconcilié avec Dieu? As-tu été saisi du fait que tu avais une dette énorme envers Dieu, une dette qui te séparait de lui maintenant, mais aussi pour l'éternité? Sinon, je t'encourage à prendre ce pas ce matin. De quel péché, singulier ou pluriel, il faudrait absolument que tu sois pardonné pour être réconcilié avec Dieu? Je pense que cette étape-là est souvent négligée lorsqu'on parle de l'Évangile, puis les gens vont croire en un salut bon marché, un salut bonbon. Jésus est mort pour moi, merveilleux. Il est mort pour tout le monde, ça veut dire qu'il est mort pour moi, OK. Ben, je l'accepte, merci. Merci. Ah, OK, mais tu étais coupable de quoi au juste envers Dieu? De quoi consistait la dette que tu avais envers Dieu? L'arrêt de le mandat d'arrestation est écrit quoi? Pourquoi, là? Ah, je sais pas. Il y a un problème. C'est peut-être pour ça que beaucoup de soi-disant chrétiens ont de la difficulté à pardonner aux autres parce qu'ils n'ont pas réellement pris conscience de leur propre faute et reçu le pardon complet de leur péché. Ils ont cru à un évangile un peu bon marché, là. Moi, j'étais meurtrier. Je voulais tuer mon frère. C'est de ça que Dieu m'a pardonné. J'étais menteur, tricheur, bagarreur, rebelle envers mes parents, envers Dieu. Adultère, j'étais tout ça. Et Dieu a pris ça et il l'a cloué à la croix de Jésus. Toi, de quoi Dieu t'a pardonné? L'autre chose, c'est que souvent avec le temps, on oublie. On oublie la gravité de ce qu'on a été pardonné. Pierre nous dit ça. Il nous dit, pour cette raison, dans 2 Pierre 1, 5 à 9, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu, à cet attachement l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle l'amour. OK. Car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ, car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair, il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. On peut oublier. On a été sauvé un jour, pardonné par grâce, merci Seigneur, merveilleux. Et après ça, on marche, on apprend des choses, on vit dans la vie chrétienne, on devient un bon petit chrétien, on connaît notre Bible, on va à l'église, on donne notre dîme, on sert le Seigneur, etc., etc. Et là, c'est tout à propos de qui? on oublie. On oublie l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est possible? Oui, c'est possible. Et on devient comme un aveugle. Il dit ici d'ajouter toutes ces choses-là et il finit par l'amour. Ce n'est pas assez l'affection fraternelle. T'as-tu vu? L'affection fraternelle, ce n'est pas assez. C'est l'amour qui est le summum. Donc l'amour, ça va au-delà de l'affection. Et ces choses-là, si on les possède, on va progresser vraiment spirituellement. On va grandir spirituellement, individuellement et en tant qu'Église. OK? Mais si on ne les possède pas, c'est pourquoi? C'est parce qu'on est devenu aveugle, parce qu'on a oublié que Dieu a pris mes péchés. Il les a cloués à la croix de Jésus. Mes péchés, les tiens. Et là, on va dans notre vie chrétienne un bord puis de l'autre, puis là, il m'a offensé, l'autre m'a offensé, là, je ne peux plus lui parler, là, lui, elle m'a fait ça, puis OK, on finit par oublier, mais on peut arriver à une certaine affection fraternelle, mais l'amour, puis là, c'est extrêmement sérieux, cette histoire de pardon, frères et sœurs. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas le choix si tu veux grandir et expérimenter davantage la grâce de Dieu dans ta vie, dans tous les domaines. C'est ce qui est écrit ici, là. Si vous possédez ces qualités, si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sérieux. Il est impossible, selon ce que le Seigneur Jésus nous enseigne, de jouir de la bonté et de la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Il dit, si vous ne pardonnez pas, mon Père non plus, il ne vous pardonnera pas. Là, on a un problème avec ça parce qu'on dit, moi, mais Seigneur, t'es mort à la croix pour tous mes péchés. Oui, oui, oui. Mais c'est comme l'image du parapluie. Dieu, sa grâce, son pardon sont là, ils descendent comme la pluie, mais moi j'ai mis un parapluie. Par mon refus de pardonner, impossible de recevoir le pardon de Dieu. Pourquoi? Parce que pour recevoir le pardon de Dieu, il faut que j'accepte que je sois pécheur. Mais là, je n'accepte pas, parce que je vois juste le péché chez l'autre. Mon cœur est dans l'orgueil. Mon cœur refuse de voir, de me rappeler qu'est-ce que Jésus a fait. Donc, j'ai un parapluie, là. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Dieu, son pardon, sa grâce est là. Mais je ne suis pas capable de le recevoir. Il ne peut pas me pardonner. En tant qu'Église, ce sont les conflits non résolus, balayés sous le tapis, qui empêchent le progrès de l'esprit au milieu de nous. C'est très sérieux, cette question de pardon. Donc, pour résumer ce qu'on a vu ce matin, c'est que souvent les conflits, il y a des fautes. Il y a des fautes. Et il faut, frères et sœurs, s'arrêter. Regardez à moi, mes fautes, mais aussi regardez à ce que j'ai reçu comme faute. Okay? Que ce soit réel, que ce soit exagéré ou que ce soit même imaginé. Ça, on peut traiter ça après. Là, la personne avec qui on traite peut nous expliquer, bien, regarde, j'ai dit ça, j'ai pas dit ça, ou j'ai fait ça, ou, tu sais, départir la vérité et l'imaginaire. Mais peu importe, là, c'est qu'il faut faire face à la musique. Il faut faire face à la réalité, dire, OK, qu'est-ce que j'ai reçu? Il ne m'a pas respecté. OK, bon, il ne m'a pas respecté, c'est ça la faute. Est-ce que je me sens respecté? Non, je ne me sens pas respecté. Et là, c'est comme une injustice. Il y a une dette envers moi. La notion de dette est très importante. Elle est rattachée intimement à la notion de justice. Et là, je fais quoi avec cette dette-là? Si je ne l'amène pas à la croix, je vais chercher à faire payer l'autre, la dette qu'il y a envers moi. Comprenez l'idée? Il faut absolument identifier la dette et l'amener à la croix, dire « Seigneur Jésus, mon frère ou ma sœur ne m'a pas respecté, je me sens vraiment là, humilié et c'est un péché dans ma tête que l'autre a commis, je cloue ça à ta croix. » Et tu as payé pour ça, Jésus. Maintenant, ça me permet de faire quoi avec ma dette? Peut-être que les premières fois, on va avoir de la difficulté à faire ça avec la feuille après. Peut-être. Peut-être que ça va te prendre plusieurs fois pour aller au pied de la croix. Et peut-être que tu vas devoir dire, « Seigneur, rappelle-moi la gravité de mes péchés. De quoi, toi, tu m'as pardonné? » Dieu, en clouant l'acte qui était contre moi. Peut-être que je suis rendu aveugle. Peut-être que je suis rendu endurci. Il faut, parce que j'ai pas de compassion, j'ai pas de miséricorde. J'arrive pas à pardonner. Donc, quelque part, j'ai dû oublier la gravité et le prix que ça a coûté et comment Dieu m'a pardonné. Et ça, ce processus-là est essentiel si on veut vivre vraiment des vraies relations. Si on veut vivre des vraies relations dans l'amour. C'est pas facile, c'est douloureux, ça peut être humiliant de reconnaître. « Ah non, moi, ça ne m'a pas atteint, là, moi, ça ne m'a pas affecté. » Mais tu vois par mon comportement que ça m'a affecté. Hein? Donc, on a une révélation de la parole de Dieu ici ce matin, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça devrait nous amener à, premièrement, faire? C'est d'adorer Dieu pour ce qu'il a fait. Pour ce qu'il a fait. Et pour ce qu'il est. C'est incroyable ce qu'il a fait. Inimaginable. Imaginez Jésus sur la croix, puis Dieu prend ton acte à toi, puis cloue sur la croix. Mais entre la croix puis ta feuille, là, il y a qui? Il y a Jésus. Imagine Jésus qui souffre quand Dieu cloue l'acte d'accusation contre toi sur son Fils. Laissons-nous toucher notre cœur, frères et sœurs. Prenons conscience de l'ampleur de la grâce qui nous a été faite. Et on pourra faire grâce les uns aux autres. Prions. Seigneur grand Dieu, merci pour ton évangile. Ton évangile glorieux, ton évangile de grâce. Une grâce extraordinaire, une grâce difficile à accepter, Seigneur. Parce que pour l'accepter, il faut que je reconnaisse mon entière culpabilité. Une grâce difficile à accepter aussi parce qu'elle est gratuite pour moi. Mais elle a coûté la vie et la souffrance à ton Fils bien-aimé. Seigneur, on a besoin que ton esprit nous rappelle ces choses. Touche nos cœurs. Brise tout l'orgueil qu'on a, Seigneur. Afin que ton amour et ta vie coulent en nous. Pour la gloire de Jésus. Amen.